gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité aujourd'hui est un être fascinant à plusieurs égards. Médecin pathologiste, il a d'abord fait des études en biochimie. Parallèlement, au gré du temps, il a développé une grande habileté comme pianiste, abordant avec rigueur les œuvres des grands compositeurs et partageant ce plaisir de les faire connaître lors d'un concert bénéfice annuel qu'il a initié il y a quelques années au profit d'une fondation scolaire valorisant la qualité du français. Passionné de littérature, il a récemment, à titre personnel, enregistré le roman de Fyodor Dostoïevski, Les démons, en y interprétant tous les personnages. Ce roman raconte l'histoire de jeunes révolutionnaires voulant renverser l'ordre établi. Ce roman demeure très actuel car il s'avère une critique globale de toutes les idéologies, ce qui rejoint sans doute la quête de sens de notre invité, qui peint également. Heureux d'accueillir François Millette. Bonjour. Homme de science ou homme de lettres ou homme des arts?
Homme tout court, j'espère.
Ah, il y a beaucoup dans ce que vous dites. Homme tout court.
C'est-à-dire, il y a tellement de façons de voir la vie. Il y a tellement de façons différentes. Il y a tellement de voies différentes qui peuvent être philosophiques, scientifiques, artistiques. Dans le domaine des arts, il y a même une très grande variété. La pensée religieuse aussi, qui est une forme de pensée particulière, à mon avis, on pourra en reparler. Mais la nature humaine, c'est une chose extraordinairement riche et c'est extraordinairement varié, qu'il faut faire bien attention de ne pas minimiser, de ne pas réduire.
Je vous posais la question parce que vous êtes d'abord un homme de science. Dans la présentation, je le mentionnais, mais vous m'avez dit « homme tout court ». Ce qui m'amène à vous dire, quand tout, jusqu'au savoir de la science elle-même, est sommé de se rendre utile, quand la pensée méditante est bannie comme une simple perte de temps, la sévère offrande des œuvres demeure peut-être le dernier lieu humain. Je suis tombé sur cette phrase et je me disais, c'est un peu le cheminement de François.
Pouvez-vous me répéter ça?
Quand tout, jusqu'au savoir et la science elle-même, est sommée de se rendre utile, quand la pensée méditante est bannie comme une simple perte de temps, la sévère offrande des œuvres demeure peut-être le dernier lieu humain. Quand vous peignez, par exemple, quand vous exprimez, quand vous faites ce projet d'enregistrer un roman comme celui de Dostoïevski,
oui,
qui est une œuvre colossale,
oui.
C'est comme si...
C'est peut-être,
oui,
excusez-moi, c'est peut-être le désir... C'est une chose que j'ai réalisée en lisant Les démons, justement. C'est une expérience toute récente, ça fait que c'est assez facile pour moi d'en parler parce que ça a été particulièrement intense. C'était la 5e ou 6e fois que je lisais ce roman-là. Je le sais virtuellement par cœur, si vous voulez. Sauf que, en le lisant à haute voix, je me suis rendu compte que j'étais obligé de ne sauter aucun mot. Vous êtes obligé de tout lire. Hein? Mm-hmm. Quand on lit à voix basse, on, sans même s'en rendre compte, on saute des mots. Alors, j'étais absolument sidéré de voir la quantité de subtilité, la quantité de détails qui apparaissaient. Mais c'est un roman assez dur qui raconte l'histoire de... Tout le monde meurt là-dedans. C'est presque comme Hamlet, je veux dire. Et tout le monde meurt dans une espèce de désespoir assez déprimant. Mais on comprend à un moment donné... que toutes ces personnes sont en enfer, mais elles sont en enfer pour une raison bien simple, c'est qu'elles refusent d'aimer. Et je pense que que ce soit la science ou l'art ou n'importe quoi, n'importe quelle forme de pensée est une pensée qui doit relier. C'est une communication. Hein?
Il ne faut pas être emprisonné dans sa vérité.
Jamais.
Souvent, la science emprisonne. La science est utile parce qu'elle peut tout expliquer. On entend cela souvent. Les arts, c'est inutile. Ça ne sert à rien. C'est là où,
oui,
on parle de pensée qui est parfois exclue. Et où, dans le cas de votre cheminement, l'un et l'autre se relient. Il n'y a pas de séparation entre la science, celle que vous exercez, et la méditation, celle que vous vous appropriez à l'égard de ce que vous faites et sur le regard que vous portez sur le monde.
Oui, c'est-à-dire si, par exemple, je suis en train de regarder quelque chose au microscope pour faire un diagnostic. Oui. Bon, c'est une pensée fonctionnelle, si vous voulez, avec un but concret. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé à un moment donné, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe pendant que je fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pendant qu'on, comme vous dites, pendant qu'on écrit ou qu'on crée ou qu'on parle? Qu'est-ce qui se passe présentement quand on parle? On essaie de rejoindre quelque chose. On essaie de rejoindre quelqu'un. On essaie, au fond, de se rejoindre nous-mêmes, même à la limite. À un moment donné, de vouloir devenir... c'est Nietzsche qui disait ça. Deviens ce que tu es. C'est-à-dire que on est un devenir continuel. On n'est jamais établi. On est en train de se construire continuellement. C'est une question d'identité. La culture, par exemple, qu'est-ce que c'est que la culture? Le fruit de ses activités, à mon avis, la meilleure définition, c'est le fruit de ses rencontres et de ses activités. Ce que je fais, les échanges que j'ai avec les gens. Quand on veut parler, quand on veut montrer quelque chose, pourquoi on fait de la musique? Pourquoi on joue de la musique? Pourquoi on parle? Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans l'enfer de la solitude.
Alors, François, je vais vous inviter à vous placer au piano et à nous interpréter, ici en studio, cette première pièce musicale. Des hommes mystérieux, scènes d'enfants, opus 15, écrite en 1838 par Robert Schumann, dis-je bien. Ça traduit bien le propos que vous teniez, François, parce que l'homme est mystérieux. C'est curieux parce que cette pièce a été écrite au moment où Schumann traversait une période très difficile de sa vie, disons une période tourmentée où le père de Clara, dont il est follement amoureux, refuse qu'elle s'engage avec lui. Mais ça nous amène à parler d'éducation parce que ce que vous évoquez part essentiellement de ce mot éducation qui englobe beaucoup de choses, c'est-à-dire l'aventure d'apprendre, l'aventure de la connaissance, l'aventure probablement aussi de pouvoir porter jugement.
Parler d'éducation, je pense que c'est une chose absolument excessivement importante, extraordinairement importante. Actuellement, moi je suis médecin, on parle beaucoup de santé et d'éducation. Hein? Je veux dire, je pense que l'éducation devrait passer avant la santé beaucoup plus souvent. Parce que c'est absolument essentiel. Une chose qui est fantastique, c'est que l'enfant naît avec une page blanche, hein, une innocence totale. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est la réflexion suivante. Supposons un enfant qui n'a jamais vu un oiseau, un jeune enfant qui n'a jamais vu d'oiseau. Quand il va voir son premier oiseau, OK, il n'y a pas besoin de son éducateur pour voir un oiseau. Il va voir l'oiseau, il va automatiquement être fasciné, attiré par l'oiseau. Ça bouge, ça vole, ça s'enlève en l'air, ça chante, ça fait du bruit. Et là, son parent ou son professeur va lui dire que c'est un oiseau. c'est un oiseau. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant au moment où on lui dit c'est un oiseau? OK? On fixe un certain aspect de l'oiseau. On fixe l'oiseau d'une certaine façon, sous la forme d'un mot O-I-S-E-A-U. OK? Après ça, toute la vie peut-être. Mm-hmm. Si cette affaire-là est un poète, par exemple, il va falloir qu'il fasse une démarche extraordinairement longue pour réapprendre à voir l'oiseau comme il le voyait avant qu'on lui dise « c'est un oiseau ». La responsabilité de l'éducateur, elle est là. Comment l'enfant va comprendre, comment on va contraindre l'enfant en lui enseignant quelque chose, puis en même temps, que c'est absolument nécessaire de lui apprendre le langage, en même temps, essayer de le laisser capable de voir autrement.
Voilà.
De découvrir autre chose, puis de repenser l'oiseau.
En cela, vous rejoignez bien ce que Albert Jacquard disait quand il disait que l'éducation est une aventure qui, au départ, commence par la découverte, ensuite elle est orientée et elle sert à l'individu à se construire à partir de sa vision et non plus de ce qu'on lui a appris.
C'est ça. Mais le plus grand mérite d'un éducateur, ce serait d'être capable de transmettre tout à la fois des connaissances, un langage finalement, un logos, mais en même temps de laisser l'élève ou l'enfant devenir lui-même à travers son expérience. On parle de, par exemple aussi, une chose extraordinairement importante, on parle de pédagogie. Dans Dostoïevski, que j'ai beaucoup exploré récemment, il y a une phrase absolument extraordinaire. C'est pas dans Les démons, c'est dans Les frères Karamazov, où il dit à la fin, vous savez, on vous parle beaucoup d'éducation, mais un beau souvenir de l'enfance, c'est probablement la plus belle éducation que vous pouvez recevoir. C'est probablement même, il dit, qu'un beau souvenir de l'enfance peut vous sauver la vie. Au moment où les expériences très pénibles peuvent survenir, être réanimé par un beau souvenir d'enfance, ça peut être très salvateur.
Pour ce qui est des scènes d'enfants, parce que vous parlez d'enfance, je leur dois l'une des joies les plus vives de ma vie. Cette citation, elle est de Franz Liszt. Alors, Schumann les désignait comme des rétrospectives d'un homme d'un certain âge, pour des personnes d'un certain âge, mais il ne niait pas qu'en composant, des têtes d'enfants lui soient passées par l'esprit. Ouais. Au piano, notre invité François Millette, on vous invite à vous retrouver derrière le clavier avec les deux dernières pièces de ce tableau intitulé « L'enfant s'endort, le poète parle ». Thank you. François Millette, d'abord bravo. Vous êtes un bon interprète.
Enfin, disons, un bon amateur peut-être, l'amateur. Mais cette pièce-là, L'enfant s'endort, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon interprétation est certaine. On aurait peut-être même dû mettre une interprétation plus parfaite. Mais ce qui est absolument extraordinaire dans cette pièce-là, c'est quand on a compris à un moment donné que c'est un enfant qui cogne des clous. Hein? Et tout à coup, il s'endort. Et après, c'est le parent qui s'endort. Le thème du début revient, puis on a encore cette espèce de rythme un peu branlant, c'est comme la tête qui tombe quand tu cognes des clous, comme on dit, jusqu'à temps que les deux s'endorment.
Avez-vous l'impression, François, que le monde s'endort?
Non, mais je pense que c'est un piège de le penser. Mais il y a, par exemple, j'aimerais vous raconter une anecdote absolument extraordinaire de cette qui est liée à ça. Il y a des moments dans la vie où on peut dire « Ah, maintenant, j'arrêterai le temps. » Et si l'éternité, c'était ça, ça ferait mon affaire. Je me souviens sur une plage aux îles Amadal, une fois où il faisait très froid, puis le vent était très fort, puis j'avais ma petite fille avec moi qui avait 2 ans, puis le vent soufflait du sable presque dans son visage. Moi, je l'avais sur les genoux, mais elle l'avait dans le visage. Puis là, elle n'était pas contente. Elle m'a tendu les bras, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai enveloppé dans mon chandail, puis elle s'est endormie dans mes bras au vent, sur le bord de la mer. Mm-hmm. Et puis je me suis dit, oui, le monde peut s'arrêter ici maintenant. Hein? Il y a un moment extraordinaire, un moment d'éternité.
Un moment d'éternité.
Est-ce que le monde s'endort? Je pense pas. Je pense que ça a toujours été le piège de penser que la nouvelle génération, les anciennes générations, c'était mieux, ça devrait être... La chose difficile à dire, par exemple, encore en question d'éducation, il ne faut pas dire, je pense aux gens, aux jeunes, le monde est bon ou le monde est mauvais. Il faut juste dire aux jeunes, aux gens, à qui que ce soit, le monde, c'est le monde. Et toi, à l'intérieur de ça, essaye de faire le mieux que tu pourras, essaye de t'actualiser, essaye de devenir ce que tu es le mieux possible.
Il ne faut pas redouter le mal... Pour le mal, c'est un peu ce que vous dites. Il y a toujours un espoir qui s'inscrit dans ces moments d'éternité.
Mais il faut se méfier de ceux qui pensent le bien. Parce que j'ai lu récemment une phrase magnifique. Le mal absolu n'est pas le fait de ceux qui le commettent, mais de ceux qui les ont animés en pensant pour eux le bien.
J'en ai une autre très belle qui va sûrement vous faire réagir. Elle est de Montesquieu. Non, elle est plutôt de Georges Bernard Shaw. Un lion ne saurait être bien redoutable. Il n'a pas d'idéal, pas de religion, pas d'opinion politique, pas de courtoisie, pas d'éducation.
Il faut avoir tout ça pour être redoutable, mais il faut aussi se méfier des convictions.
Parce que ça, c'est une vérité enfermée.
Oui, parce qu'on ne peut pas confondre un convaincu. On peut confondre un menteur, mais pas un convaincu. Et ça, c'est malheureux parce que même si le convaincu avait raison, il serait esclave, finalement.
Alors ça nous amène à l'idée du pouvoir. On va pouvoir en parler allègrement parce qu'il y a une ambiguïté dans le mot pouvoir. Il y en a même plusieurs, mais il y en a au moins une sur laquelle on reviendra. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous me parliez de la pièce qui ouvre bien la discussion sur le pouvoir que nous aurons dans le deuxième bloc. C'est l'Allegretto de Shostakovich de sa symphonie numéro 10, le troisième mouvement. Pourquoi avoir choisi cet extrait?
Parce que Shostakovich est un compositeur qui a vécu dans un contexte, c'est un très grand compositeur, qui a vécu dans un contexte extraordinairement contraignant. Il vivait continuellement dans la peur des répressions que Staline imposait à tout le monde et des grandes purges, tout ce qui serait trop long de décrire en détail. Mm-hmm. Mais dans cette œuvre-là, il décrit, après la mort de Staline, il a décrit cette petite pièce-là lui-même comme un portrait vitriolique de Staline, c'est-à-dire un portrait caricatural, à la limite. Mais ce qui est très intéressant dans cette pièce-là, vous allez l'entendre, c'est l'empressement. Hein? L'absence de l'excitation, la nervosité, l'empressement, tout est toujours pressé. pour le pouvoir, pour celui qui est sûr de lui. Il manque toujours de temps. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là. Je trouve que c'est une bonne façon de parler de le pouvoir dans tous ses dans tout son côté négatif.
Et pour bien contextualiser ceux qui ne connaissent pas Shostakovich, il faut rappeler qu'il a écrit beaucoup de musique pour le cinéma. Sa première musique de film date de 1925, un film qui est une œuvre d'art, Le cuirassé Potemkin, du cinéaste Sergei Eisenstein. Sa dernière, elle date de 1970, pour une œuvre de Kozintsev, Le roi Léard. Il a aussi écrit 15 symphonies. On va entendre donc ce mouvement de la 10e symphonie en mi mineur, opus 93, qui a été composé en 1953, donc peu temps après la mort de Staline que vous évoquiez précédemment. On raconte qu'elle ne comportait au moment de sa création aucun programme parce que Shostakovich avouera plus tard qu'il pensait à Staline dans l'Allegro particulièrement oppressant, interprété ici par la Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan.